Guy de Maupassant, le pardon. Elle avait été élevée dans une de ces familles qui vivent enfermées en elles-mêmes et qui semblent toujours loin de tout. Elles ignorent les événements politiques, bien qu'on en cause à table. Mais les changements de gouvernement se passent si loin, qu'on parle de cela comme d'un fait historique, comme de la mort de Louis XVI, ou du débarquement de Napoléon. Les mœurs se modifient, les modes se succèdent. On s'en aperçoit guère dans la famille calme où l'on suit toujours les coutumes traditionnelles. Et si quelque histoire scabreuse se passe dans les environs, le scandale vient mourir au seuil de la maison. Seuls le père et la mère, un soir, échangent quelques mots là-dessus, mais à mi-voix, à cause des murs qui ont partout des oreilles. Et discrètement, le père dit « Tu as su cette terrible affaire dans la famille des Rivol ?» Et la mère répond « Ah oui, qui aurait jamais cru cela? C'est affreux !» Les enfants ne se doutent de rien, ils arrivent à l'âge de vivre à leur tour, avec un bandeau sur les yeux et sur l'esprit, sans soupçonner les dessous de l'existence, sans savoir qu'on ne pense pas comme on parle, et qu'on ne parle point comme on agit, sans savoir qu'il faut vivre en guerre avec tout le monde, ou du moins en paix armée, sans deviner qu'on est sans cesse trompé quand on est naïf, et joué quand on est sincère, et maltraité quand on est bon. Les uns vont jusqu'à la mort dans cet aveuglement de probité, de loyauté, d'honneur, tellement intègre que rien ne leur ouvre les yeux. Les autres, désabusés sans bien comprendre, trébuchent éperdus, désespérés, et meurent en se croyant les jouets d'une fatalité exceptionnelle, les victimes misérables d'événements funestes et d'hommes particulièrement criminels. Les Savignolles marièrent leur fille Berthe à 18 ans. Elle épousa un jeune homme de Paris, Georges Baron, qui faisait des affaires à la bourse. Il était beau garçon, parlait bien, avec tous les dehors probes qu'il fallait, mais au fond du cœur, il se moquait un peu de ses beaux-parents attardés, qu'il appelait entre amis « mes chers fossiles ». Il appartenait à une bonne famille, et la jeune fille était riche. Il l'emmena vivre à Paris. Elle devint une de ces provinciales de Paris dont la race est nombreuse. Elle demeura ignorante de la grande ville, de son monde élégant, de ses plaisirs, de ses costumes, comme elle était demeurée ignorante de la vie, de ses perfidies et de ses mystères. Enfermée en son ménage, elle ne connaissait guère que sa rue, et quand elle s'aventurait dans un autre quartier, il lui semblait accomplir un voyage lointain en une ville inconnue et étrangère. Elle disait le soir « J'ai traversé les boulevards aujourd'hui. » Deux ou trois fois par an, son mari l'emmenait au théâtre. C'était des fêtes dont le souvenir ne s'éteignait plus et dont on reparlait sans cesse. Quelquefois, à table, trois mois après, elle se mettait brusquement à rire et s'écriait « Te rappelles-tu cet acteur habillé en général ?» et qui imitait le chant du coq. Toutes ces relations se bornaient à deux familles alliées qui, pour elle, représentaient l'humanité. Elle les désignait en faisant précéder leur nom de l'article « les Martinet et les Michelin ». Son mari vivait à sa guise, rentrant quand il voulait, parfois au jour levant, prétextant des affaires, oh, ne se gênant point, sûr que jamais un soupçon n'effleurerait cette âme candide. Mais un matin, elle reçut une lettre anonyme. Elle demeura éperdue, ayant le cœur trop droit pour comprendre l'infamie des dénonciations, pour mépriser cette lettre dont l'auteur se disait inspiré par l'intérêt de son bonheur, et la haine du mal et l'amour de la vérité. On lui révélait que son mari avait depuis 2 ans une maîtresse, une jeune veuve, Madame Rosset, chez qui il passait toutes ses soirées. Elle ne sut ni feindre, ni dissimuler, ni épier, ni ruser. Quand il revint pour déjeuner, elle lui jeta cette lettre en sanglotant et s'enfuit dans sa chambre. Il eut le temps de comprendre, de préparer sa réponse, et il alla frapper à la porte de sa femme. Elle ouvrit aussitôt, n'osant pas le regarder. Il souriait, il s'assit, l'attira sur ses genoux et d'une voix douce, un peu moqueuse. « Oui, ma chère petite, j'ai en effet pour amie Madame Rosset, que je connais depuis 10 ans et que j'aime beaucoup. J'ajouterai que je connais 20 autres familles dont je ne t'ai jamais parlé, sachant que tu ne recherches pas le monde, les fêtes et les relations nouvelles. Mais, pour en finir une fois pour toutes avec ces dénonciations d'infâmes, je te prierai de t'habiller après le déjeuner et nous irons faire une visite à cette jeune femme qui deviendra ton amie, je n'en doute pas. » Elle embrassa à plein bras son mari et par une de ces curiosités féminines qui ne s'endorment plus une fois éveillée, elle ne refusa point d'aller voir cet inconnu qui lui demeurait malgré tout un peu suspecte. Elle sentait par instinct qu'un danger connu est presque évité. Elle entra dans un petit appartement coquet, plein de bibelots, orné avec art, au 4e étage d'une belle maison. Au bout de 5 minutes d'attente, dans un salon assombri par des tentures, des portières, des rideaux drapés gracieusement, une porte s'ouvrit et une jeune femme apparut, très brune, petite, un peu grasse, étonnée et souriante. Georges fit les présentations. « Ma femme, Madame Julie Rosset. » La jeune veuve poussa un cri d'étonnement et de joie et s'élança les deux mains ouvertes. Elle n'espérait point, disait-elle, avoir ce bonheur, sachant que Madame Baron ne voyait personne. Mais elle était si heureuse, si heureuse. Elle aimait tant Georges. Elle disait à Georges, tout court, avec une fraternelle familiarité, qu'elle avait une envie folle de connaître sa jeune femme et de l'aimer aussi. Au bout d'un mois, les deux nouvelles amies ne se quittaient plus. Elles se voyaient chaque jour, souvent 2 fois, et dînaient tous les soirs ensemble, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Georges, maintenant, ne sortait plus guère, ne prétextait plus d'affaires, adorant, disait-il, son coin du feu. Enfin, un appartement s'étant trouvé libre dans la maison habitée par Madame Rosset, Madame Baron s'empressa de le prendre pour se rapprocher et se réunir encore davantage. Et pendant 2 années entières, ce fut une amitié sans un nuage, une amitié de cœur et d'âme, absolue, tendre, dévouée, délicieuse. Berthe ne pouvait plus parler sans prononcer le nom de Julie, qui représentait pour elle la perfection. Elle était heureuse d'un bonheur parfait, calme et doux. Mais voici que Madame Rosset tomba malade. Et Berthe ne la quitta plus. Elle passait les nuits, se désolait. Son mari lui-même était désespéré. Or, un matin, le médecin, en sortant de sa visite, prit à part Georges et sa femme, et leur annonça qu'il trouvait fort grave l'état de leur ami. Dès qu'il fut parti, les jeunes gens atterrés s'assirent l'un en face de l'autre, puis brusquement se mirent à pleurer. Ils veillèrent la nuit tous les deux ensemble auprès de lui. Et Berthe, à tout instant, embrassait tendrement la malade, tandis que Georges, debout devant les pieds de sa couche, la contemplait silencieusement avec une persistance acharnée. Le lendemain, elle allait plus mal encore. Enfin, vers le soir, elle déclara qu'elle se trouvait mieux et contraignit ses amis à redescendre chez eux pour dîner. Ils étaient tristement assis dans leur salle, sans guère manger, quand la bonne remit à Georges une enveloppe. Il l'ouvrit, lut, devint livide, et se levant, il dit à sa femme d'un air étrange: attends-moi, il faut que je m'absente un instant. Oh, je serai de retour dans 10 minutes. Surtout ne sors pas. Il courut dans sa chambre prendre son chapeau. Berthe l'attendit, torturée par une inquiétude nouvelle. Mais, docile en tout, elle ne voulut point remonter chez son ami avant qu'il fût revenu. Comme il ne reparaissait pas, la pensée lui vint d'aller voir en sa chambre s'il avait pris ses gants, s'il lui indiquait qu'il devait entrer quelque part. Elle les aperçut du premier coup d'œil. Près d'eux, un papier froissé gisait, jeté là. Elle le reconnut aussitôt, c'était celui qu'on venait de remettre à Georges. Une tentation brûlante, la première de sa vie, lui vint de lire, de savoir. Sa conscience révoltée luttait, mais la démangeaison d'une curiosité fouettée et douloureuse poussait sa main. Elle saisit le papier, l'ouvrit, reconnut aussitôt l'écriture, celle de Julie, une écriture tremblée et au crayon. Elle lut: viens seul m'embrasser, mon pauvre ami, je vais mourir. Elle ne comprit pas d'abord et restait là stupide, frappée surtout par l'idée de mort. Puis soudain, le tutoiement saisit sa pensée, et ce fut comme un grand éclair illuminant son existence, lui montrant toute l'infâme vérité, toute leur trahison, toute leur perfidie. Elle comprit leur longue astuce, leur regard, sa bonne foi jouée, sa confiance trompée. Elle les revit l'un en face de l'autre, le soir sous l'abat-jour de sa lampe, lisant le même livre, se consultant de l'œil à la fin des pages. Et son cœur, soulevé d'indignation, meurtri de souffrance, s'abîma dans un désespoir sans bornes. Des pas retentirent. Elle s'enfuit et s'enferma chez elle. Son mari bientôt l'appela. « Viens vite, Madame Rosset va mourir !» Berthe parut sur sa porte, et la lèvre tremblante: retournez seul auprès d'elle, elle n'a pas besoin de moi. Il la regarda follement, abruti de chagrin, et il reprit: mais vite, vite, elle meurt. Berthe répondit: vous aimeriez mieux que ce fût moi. Alors il comprit peut-être et s'en alla, remontant près de l'agonisante. Il la pleura sans dissimulation, sans pudeur, indifférente à la douleur de sa femme qui ne lui parlait plus, ne le regardait plus, vivait seul, muré dans le dégoût, dans une colère révoltée, et priait Dieu matin et soir. Ils habitaient ensemble pourtant, mangeaient face à face, muets et désespérés. Puis il s'apaisa peu à peu, mais ne lui pardonnait point. Et la vie continua dure pour tous les deux. Pendant un an, ils demeurèrent aussi étrangers l'un à l'autre que s'ils ne se fussent pas connus. Berthe faillit devenir folle. Puis un matin, étant partie de l'aurore, elle rentra vers 8 heures, portant en ses deux mains un énorme bouquet de roses blanches, toutes blanches. Et elle fit dire à son mari qu'elle désirait lui parler. Il vint, inquiet, troublé. « Nous allons sortir ensemble, lui dit-elle. Prenez ces fleurs, elles sont trop lourdes pour moi. » Il prit le bouquet et suivit sa femme. Une voiture les attendait qui partit dès qu'ils furent montés. Elle s'arrêta devant la grille du cimetière. Alors Berthe, dont les yeux s'emplissaient de larmes, dit à Georges, « Conduisez-moi à sa tombe. » Il tremblait sans comprendre et il se mit à marcher devant, tenant toujours les fleurs en ses bras. Il s'arrêta enfin devant un marbre blanc et le désigna sans rien dire. Alors elle lui reprit le grand bouquet et s'agenouillant le déposa sur les pieds du tombeau. Puis elle s'isola en une prière inconnue et suppliante. Debout derrière elle, son mari, hanté de souvenirs, pleurait. Elle se releva et lui tendit les mains. « Si vous voulez, nous serons amis, » dit-elle. 16 octobre 1882.